David Calfon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'Amaïka Asset Management. On va parler avec vous de stratégie d'investissement sur les marchés. Commençons sans doute par ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs. C'est le sujet Amérique, blocage politique, question sur la dette, question aussi sur l'état de l'économie américaine. Beaucoup d'investisseurs avaient suivi la réserve fédérale américaine, s'attendaient à ce qu'elle change un petit peu, en tout cas, sa politique accommodante. Ça n'a pas été le cas. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les États-Unis?
La reprise économique américaine date maintenant d'un certain temps. Hein. Ça, grâce au soutien actif de la Fed, à la reprise du marché de l'immobilier, l'économie est vraiment repartie de manière assez significative. Et là maintenant, on est à un point charnière. Effectivement, la Fed n'a pas agi au mois de septembre dernier. Quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement avec le problème budgétaire aux États-Unis, on se dit maintenant qu'ils avaient probablement de bonnes raisons de ne pas agir tout de suite. Mais la direction est donnée. C'est-à-dire qu'on est à la fin de l'assouplissement monétaire aux États-Unis. On ne sait pas vraiment quand, mais la direction est là et de manière très claire. Au niveau de la dynamique des bénéfices des entreprises, on est également à un point qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir des révisions à la hausse des bénéfices des entreprises, mais en revanche, le rythme est en train de décélérer. Donc je dirais qu'on a une reprise qui est certainement plus mûre que ce qu'on peut avoir dans les autres zones géographiques.
Alors en même temps, on pourrait se dire si la Fed reste sur le statu quo, en quelque sorte, sur cette politique d'aide massive, ça veut dire aussi que la situation n'est peut-être pas si rose que cela, c'est-à-dire que finalement, malgré les indicateurs, finalement, l'économie américaine a du mal à, on va dire, sans perfusion, à avoir cette croissance.
Je dirais que surtout le marché américain a certainement peur de ce qu'il se passerait si on retirait les perfusions. Et là, c'est un petit peu un problème très psychologique qu'ont les investisseurs. C'est exactement l'analogie du malade à qui on dit vous allez mieux, vous pouvez sortir de l'hôpital. Mais ça fait tellement longtemps qu'il a été à l'hôpital qu'il a peur finalement de se retrouver tout seul chez lui, alors qu'il en est probablement capable. Donc c'est exactement là où nous en sommes pour le moment.
Donc on se dit effectivement du côté des États-Unis, de votre point de vue en tout cas, ça va mieux. Reste à confirmer effectivement dans les prochains mois et puis ces questions politiques. Est-ce que ça donne un avantage aujourd'hui au marché américain ou au contraire, comme le pensent certains investisseurs, en disant finalement l'Europe n'est pas si mal, c'est pas si mal que ça ce qui se passe en Europe quand on voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment?
C'est intéressant ce que vous dites, puisque effectivement, depuis le mois de mai, en fait, depuis que Ben Bernanke a annoncé la fin possible de son programme d'assouplissement quantitatif, on sent qu'il y a eu vraiment un changement de leadership dans le marché. Début d'année, les actions américaines ont surperformé le reste du monde de manière assez insolente. Et depuis mai-juin, on voit véritablement un renversement, et un renversement assez significatif, renversement qui se produit en faveur des actions européennes. Et il y a de très bonnes raisons à cela. Après 6 trimestres de récession, la zone euro est finalement sortie de cette récession. On a eu un PIB positif au deuxième trimestre. C'était même un petit peu plus tôt que ce qui était prévu. On a beaucoup de pays, notamment je pense aux pays d'Europe du Sud, qui ont fait un travail remarquable d'assainissement de leurs finances publiques. On se retrouve quand même avec Italie et Espagne qui se retrouvent en excédent primaire, Portugal également d'ailleurs, excédent primaire. Donc l'excédent primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'argent pour financer leurs dépenses courantes. La seule raison pour laquelle ils ont besoin de l'argent, c'est pour financer la charge d'intérêt de la dette, donc je dirais le fardeau du passé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a eu véritablement une amélioration de ce côté-là. Un autre fait qui est marquant, on a eu le dernier G20, l'euro et la zone euro n'étaient même pas à l'agenda de cette réunion, première fois depuis 2 ans, je crois. Donc oui, véritablement, il y a un mieux en Europe. Et finalement, maintenant que ce risque systémique lié à la crise de l'euro s'est éloigné, on se retrouve finalement avec quoi? Avec des valorisations qui sont plus faibles que dans le reste du monde et qui sont intéressantes. On se retrouve également avec beaucoup d'espoir sur la reprise d'un cycle de hausse des bénéfices des entreprises. Là, je dis des espoirs parce que ce qu'il faut voir, c'est que tout le rallye qu'on a eu en Europe c'est fait uniquement par une expansion de multiples. Hein. Les valeurs sont devenues de plus en plus chères quand on les mesure par leur PE, hein, le Price-Earning Ratio. On se rend compte que le E, donc le bénéfice des entreprises, n'a pas bougé. En fait, il a même été révisé à la baisse très régulièrement ces derniers mois, alors que le prix des actions, lui, a continué de monter.
Et donc on pouvait se poser des questions sur la valorisation de ces marchés, de certaines valeurs en tout cas, typiquement de valeurs dites de croissance qui avaient largement performé.
Exactement. En fait, on a entre le moment où on sort de récession et le moment où on doit voir un cycle de révision à la hausse des bénéfices, il doit se passer entre 3 et 6 mois. Bon, on est exactement dans ce timing-là, donc pour le moment, il n'y a pas encore de problème, mais il faut que d'ici la fin de l'année, on voit des révisions de bénéfices à la hausse.
Un mot des marchés émergents. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être préciser de quel marché on parle, mais on voit sur ces pays émergents effectivement l'impact de, en tout cas, des mauvaises nouvelles pendant un certain temps, États-Unis, Europe. Finalement, ils n'ont pas été épargnés. On a vu aussi avec la politique de la Réserve fédérale américaine un certain nombre d'impacts, en tout cas du point de vue des investisseurs. Vous les regardez comment ces marchés émergents?
Ces marchés émergents ont été malheureusement très négativement impactés par les sorties de capitaux auxquelles ils ont dû faire face au printemps dernier. Au moment où la demande extérieure finalement était plutôt modérée, pour utiliser un mot plutôt prudent, ils se sont retrouvés donc avec une baisse de la demande extérieure et à ce moment-là, ils ont dû défendre leur devise, et pour défendre leur devise, ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû monter très fortement les taux, ce qui a étouffé la croissance interne. Donc, il y a eu un effet de ciseau qui a été extrêmement négatif. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est que ces marchés ne sont pas chers. On a une décote en valorisation par rapport au reste du monde qui est extrêmement significative. Maintenant, pour réinvestir dans ces marchés, on va vouloir attendre de voir un signal fort, soit des banques centrales locales, c'est-à-dire des baisses des taux ou des mesures d'accompagnement monétaire, ou bien, car certains pays en ont les moyens, des mesures de relance budgétaire. Ils ont des finances qui sont relativement saines et beaucoup d'États ont les moyens de faire une relance budgétaire pour relancer l'économie.
Un mot du Japon. Là, il y a eu effectivement une hausse des actions. Il y a eu aussi une baisse du yen, donc pas forcément évident pour les investisseurs. Ça a été très rapide. Comment on le voit le Japon aujourd'hui en tant qu'investisseur?
De manière très positive, et je crois qu'il faut le voir de manière très positive. On a là-bas un choc de confiance positif qu'on n'avait pas vu depuis des années, et on est quasiment, ça tient du sursaut nationaliste, hein. C'est véritablement, on voit que tout le monde est mobilisé, la Banque du Japon, avec une politique extrêmement souple, le gouvernement, avec une relance budgétaire extrêmement forte, mais on voit que tout est en train de se transmettre. Le Keidanren, donc l'équivalent du MEDEF japonais, a également bien reçu le message. Les salaires sont en train d'augmenter. La confiance des ménages est en train de remonter également. Donc on a tous les ingrédients en place pour voir ce que l'on n'a pas vu depuis des années et surtout ce que Koizumi n'avait pas réussi à faire en 2005, c'est-à-dire une sortie durable de la déflation. Pour autant, il faudra faire attention aux mesures d'assainissement qui vont être annoncées. Donc, je fais allusion notamment à la hausse de la TVA qui pourrait remettre un petit peu en question tout cela, et surtout aux réformes structurelles dont le pays a besoin et pour lesquelles, pour le moment, on n'a pas encore vu grand-chose.
Le mot de la fin, donc, sur les arbitrages entre ces différentes zones, telles que avec les questions de valorisation. Aujourd'hui, vous privilégiez plutôt les marchés européens?
Pour le moment, dans l'ordre, ce sera marché européen. En numéro 2, le Japon. En numéro 3, les États-Unis. Et en dernier, les marchés émergents.
Merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, David Calfon. On rappelle, vous êtes donc le fondateur de Amaïka Asset Management.
Merci.